La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Bon, tu reviens sur un sujet qu'on a jasé la semaine passée, je pense, c'est-à-dire l'héritage. Et tu avais lancé une idée qui me semble intéressante. On est mieux d'aider nos enfants quand ils sont plus jeunes, quand ils ont des besoins plus criants, plutôt que d'attendre d'être, nous, finalement, plus vieux, puis eux, alors que la pression financière est passée. Si on est capable, on est mieux de les aider au début de leur vie.
Oui, et on a ouvert une boîte de Pandore parce que ça fait réfléchir des gens. On dit, oui, mais à quel âge? Ben 25-35 ans, évidemment, on oublie la période où ils sont à la maison, là, on les aide, on les fait pas travailler à ramasser du charbon. Mais mise de fonds sur la maison, pression sur le remboursement des dettes d'études, pression sur l'arrivée des enfants, l'acquisition d'un transport comme une voiture, équiper la maison, les activités familiales, la pression sur le couple, le régime enregistré d'épargne études, c'est la période où est-ce que, quand t'es un adulte, t'as l'impression que peu importe combien tu gagnes, tu dois dédier de l'argent à en sortir. Puis, le jour où tu penses que t'es correct, quelqu'un t'arrive en t'es-tu assuré. Donc, il y a toujours de l'argent à sortir. Donc, c'est à cet âge-là qu'il faut aider. Mais si t'aides à cet âge-là, ça veut dire que comme parent, t'as probablement 55, 50, 60, ça dépend à quel âge tu les as eu. Et là, tu dis, ouais, mais je leur donne combien? Ben, je leur dis tout le temps, écoutez, donner 25 000 à 25 ans, c'est l'équivalent de donner 109, 110 000 à 5 % 30 ans plus tard. Et donc, si vous attendez d'avoir 80 et de léguer ça quand vos enfants vont avoir 50, mais vous leur donniez 100 000 piastres à 50, c'est tellement différent d'avoir 25 000 à 25 ans. Et il y a un problème, c'est ceux qui ont des plus grandes familles. Quand tu as un enfant, le moment où tu lui donnes son héritage n'est pas un enjeu. Quand tu en as un, deux ou trois, là, tu as un problème d'équité entre les enfants. Mais ça veut pas dire que tu as un, les moyens d'aider les deux, trois, puis deux, que les deux, trois en ont besoin. Alors, j'ai quelques propositions.
On t'écoute.
Par exemple, ton premier a besoin d'argent, mais ton deuxième, pas pantoute. Ben, ton premier, tu peux lui dire, regarde, je vais te donner 25 000 tout de suite, mais sache que, quand va arriver le temps de ma mort et de léguer l'héritage, je vais faire un rendement de ton 25 000 à 3, 4 ou 5 % sur 30 ans et on va le soustraire. Et donc, sois pas surpris que ton frère hérite de 200 puis toi de 50 000. Ce sera juste, disons, la répartition correcte. OK.
J'ouvre une parenthèse.
Oui.
Important de le dire et de l'écrire.
Oui.
Pour éviter des problèmes d'interprétation le cas échéant.
Oui, et surtout de ne pas faire sur ton lit de mort, réécrire ton testament par tes parents pour changer ton frère. Tu sais.
Ouais.
Et l'autre point, ça prend du discrétionnaire aussi. Parce que là, l'enfant qui est souvent sous-évalué, j'ai moyen d'aider mon enfant. Oui, mais si tu as 75 ans, puis que tu as 300 000 d'épargne, tu te dis, je suis pas pire. Attention, il y a un saut énorme, puis j'en parle souvent des personnes qui sont rentrées à trois quarts de siècle. Tu sais, tu payes 700-800 $ par mois pour ton logement, tu es autonome, tu vas à l'épicerie, puis whoop, du jour au lendemain, tu perds l'autonomie, puis tu restes pendant 5 ans dans une résidence où c'est 2-3 000 par mois. Tu vois que ton capital va se brûler à vitesse grand V. Donc, ne pas sous-estimer cette période-là de votre vie pour faire plaisir à votre enfant. Après ça, on me dit, ouais, mais si je donne de l'argent à mon enfant, est-ce que je paye de l'impôt? Ben, ça dépend où tu le prends. Si tu le prends de ton REER, c'est sûr que oui, il faut que tu le défiscalises. Si tu le prends de ton entreprise puis tu te verses un salaire, il faut que tu le défiscalises. Mais si tu le prends de ton CELI, non. Mais il y a une affaire que tu peux faire aussi, c'est endetter ta propre maison. Hey, les gens tombent en bas de leur chaise. Si tu penses que je vais payer...
Je viens de tomber en bas de ma chaise.
Moi, quand je vais payer ma maison pendant 25 ans puis que je vais l'endetter pour mes enfants. Oui, mais faites le calcul. Disons que vous avez une maison que vous avez payé 200 000, qui est complètement payée, puis qu'aujourd'hui, elle vaut 700. L'hypothéquer pour 50 000, puis payer 1 % 2 % d'hypothèque, au lieu de sortir un 50 000 d'un coup pour votre enfant, ça peut être une réflexion. Et donc, tu peux te dire, moi, comme adulte que sa maison est payée, je pourrais réhypothéquer pour 50 000 pour avancer la mise de fonds à mon enfant, puis moi, au lieu de sortir 50 000, je vais me le payer avec mon régime de retraite, tranquillement, pas vite, l'hypothèque de 50 000. C'est juste un choix de financement. Et si vous avez une entreprise, vous pouvez faire un prêt à votre enfant au-dessus du taux prescrit, tant aussi longtemps qu'il y a un plan quelque part d'une reconnaissance de dette puis d'un paiement d'intérêt. Et là, l'autre point, c'est de dire, dans votre planification patrimoniale, donnez à la deuxième génération qui suit. Donc, si vous ne pouvez pas aider votre enfant de façon importante, peut-être de juste remplir le régime enregistré d'épargne étude du petit enfant pendant 3-4 ans permet de générer un patrimoine multigénérationnel qui, après, sera bénéfique pour tout le monde. Parce que si tu me donnes 5 000$ pour que je mette dans le régime épargne étude de mon enfant sur 3 ans, c'est 5 000$ comme parent que j'ai pas eu à sortir. Et donc, ça m'a aidé aussi. Donc, tout ça, c'est une réflexion, mais le plus complexe, c'est l'équité entre les enfants. Et c'est de dire, ça va être quoi l'arrangement?
Parce que tu peux avoir un enfant qui a 20 ans aujourd'hui, l'autre a 15, l'autre a 14, ou, tu comprends, ils sont pas tous en même temps, à la même place.
Attends, je te mets vraiment la pagaille dans tout ça.
Vas-y donc.
Tu peux avoir 2 enfants nés d'une première union.
Ah ben oui, là, c'est...
2 enfants nés d'une deuxième union. Et ta deuxième union avait elle-même un enfant. Donc, la réalité dans 10-15 ans, Paul, qui va arriver, c'est la suivante. Tu vas avoir 3-4 enfants qui vont être des demi-frères, demi-sœurs, qui vont cohabiter, peu importe. Et qu'il y en a qui vont avoir un régime d'épargne étude, il y en a qui vont avoir une retraite, l'autre n'aura pas. Puis pourtant, ils vont être sous la même unité familiale, toi, là. Mais ils vont avoir 3 patrimoines familiaux différents bâtis. Parce que là-dedans, tu as des grands-parents différents. Donc, les grands-parents veulent donner à leurs propres petits-enfants, mais est-ce qu'ils veulent donner aux petits-enfants nés d'une autre union ou qui viennent de l'autre union, mais qui sont pas de lien de sang? Hey, ça va créer de la chicane.
Oui, monsieur. Ça, c'est complexe. Je te souhaite une très belle journée.
Ben, merci.
C'est 23.